C'est un psaume de David quand il criait devant son fils Absalom. Éternel, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À haute voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades, les milliers de gens qui de toutes parts se sont mis contre moi. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. À l'Éternel est le salut. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Vous savez peut-être que lors de la Seconde Guerre mondiale, les nazis avaient mis en place un comité pour le contrôle de la littérature. C'est comme ça, un comité pour le contrôle de la littérature qui s'occupait de censurer tous les ouvrages qui paraissaient en langue allemande, notamment tout ce qui touchait bien sûr aux juifs. Et lorsque ce comité de contrôle de la littérature a voulu donner une amende à Dietrich Bonhoeffer, je crois que j'ai entendu parler de cet homme, c'est un chrétien pasteur qui est mort en martyr pendant la guerre et qui reste encore assez influent aujourd'hui par ses écrits. Et lorsque ce comité de contrôle de la littérature a voulu donner une amende à Dietrich Bonhoeffer parce qu'il avait publié un livre sur les psaumes, que les nazis considéraient donc comme faisant partie des écrits sacrés juifs, Dietrich Bonhoeffer s'en est sorti indemne, il n'a pas eu à payer d'amende. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit que, oui, si ça fait bien partie des écrits sacrés juifs, c'est aussi le livre des prières de Jésus. Et c'est important qu'on se rappelle ça, nous, ce matin, que ce texte qu'on a lu, c'est quoi le livre des prières de notre Sauveur? Il les connaissait, il les a priées quand il était petit, il les a citées quand il était adulte, il les a accomplies dans sa vie, dans sa mort, et du coup, ces prières ne sont pas dénuées d'intérêt pour nous, bien au contraire, elles sont vraiment d'un grand intérêt pour nous. Jean Calvin, le réformateur, il faisait cette remarque concernant le livre des psaumes, il disait « J'ai l'habitude d'appeler ce livre une anatomie des parties de l'âme. » Une anatomie des parties de l'âme. Car personne ne trouvera en soi-même une émotion qui ne soit pas reflétée par ce miroir. Que ce soit la louange, le deuil, la colère, la tristesse, chaque émotion, chaque expérience humaine finit, on peut dire, par remonter à la surface de l'une ou l'autre de ces prières, de l'un ou l'autre de ces poèmes qui sont contenus dans le livre des psaumes. C'est une anatomie des parties de l'âme. Je crois que Jean Calvin avait raison en disant ça. Et c'est ce psaume 3 qu'on vient de lire, à mon avis, on est un très bon exemple. Ça, si vous arrivez à identifier l'émotion dont il est question ici. Vous arrivez à voir. C'est peut-être l'émotion, le sentiment le plus basique, le plus instinctif, le plus primitif. Ouais. La peur, ouais, c'est ça. La peur ou peut-être l'angoisse. J'ai essayé tout à l'heure de clarifier la différence que je vois que sont entre ces deux termes, la peur et l'angoisse. Et notre Dieu, par ces quelques paroles de David, nous montre que la peur, l'angoisse, ce n'est pas des émotions qui sont étrangères à l'essence du croyant, comme si le chrétien avait évacué toute crainte et vivait sans anxiété, sans stress, parfaitement serein. Non, bien sûr, notre expérience nous dit l'inverse. Et ce psaume 3 nous montre que ce n'est pas le cas. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que face à l'attitude qui est assez courante aujourd'hui autour de nous, qui consiste à laisser libre cours à nos émotions, laisser libre cours à ma colère. En tant que chrétien, des fois, on prend le contre-pied, on va un peu à l'inverse, et on dissimule, on refoule nos émotions, on essaie de les cacher, que ce soit des émotions de peur, justement, d'angoisse, etc. Mais il y a une troisième voie. Il y a une troisième voie. Entre laisser libre cours à nos émotions ou les refouler, il y a une troisième voie qui consiste à prier nos émotions. C'est ce qu'on voit dans ce psaume 3 ici. Parce que David prie son angoisse Et c'est tout un cheminement, parce que regardez au verset 3. Alors qu'au verset 3, on entend « Il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu », au verset 9, David dit « À l'Éternel est le salut ». À l'Éternel, le salut appartient à l'Éternel. Le cheminement que j'aimerais qu'on voit et qu'on fasse ensemble ce matin, pour voir que c'est Dieu, c'est en Dieu seul que se trouve la vraie délivrance à nos angoisses les plus profondes. C'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble. Et si je parle d'angoisse, c'est parce que ce passage commence avec un cri d'angoisse. Ce sera ma première partie, un cri d'angoisse. C'est des versets 2 et 3, regardez. Éternel, ils sont nombreux mes adversaires. Nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent à mon sujet, il n'y a pas de salut pour lui, auprès de Dieu. Un cri d'angoisse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai lu les psaumes, j'ai parfois tendance un peu à relativiser, à atténuer la force de ce qui est dit. Parce que, voilà, je me dis, c'est du langage poétique, c'est un peu exagéré, c'est un peu hyperbolique. Mais est-ce que c'est une hyperbole ce que David dit ici? Est-ce que vous croyez qu'il est un peu comme si... Ces personnes qui voient une théorie du complot derrière chaque événement, derrière chaque personne. Est-ce qu'il exagère ici? Pas vraiment. Regardez le titre du psaume encore une fois. C'est verset 1 en fait. Psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Et les titres des psaumes, c'est vraiment un peu comme une clé accrochée à côté de la porte. Vous savez, comme on a des fois quand on va à la cave, plutôt que d'avoir la clé de la cave accrochée à notre trousse aux clés, on l'accroche à côté de la porte. Un titre d'un psaume, c'est un peu ça, c'est un peu une clé qui est là, parce que lorsqu'on comprend les circonstances dans lesquelles le psaume a été écrit, alors tout d'un coup, ça nous permet d'ouvrir, de découvrir vraiment le sens du psaume. Et c'est ce qu'on va faire. Je propose qu'on prenne la clé et qu'on aille voir en 2 Samuel 15, juste pour qu'on comprenne à quelle occasion est-ce que ce psaume a été écrit. Vous allez voir, ça a beaucoup nous aider tout au long de ce message. Donc 2 Samuel 15, à partir du verset 1, on va lire quelques versets. De Samuel 15. C'est une histoire assez sordide, dont vous vous rappelez peut-être, Absalom, je vais vous laisser trouver de Samuel 15. Merci. Absalom, donc, c'est le fils de David. Vous vous rappelez, il avait tué son frère, Amnon. Pourquoi? Pour venger sa sœur Tamar qui avait été violée par Amnon. Une histoire vraiment sordide. Donc vous imaginez bien que les relations au sein de la famille de David étaient assez houleuses. Et on reprend donc le récit ici en 2 Samuel 15. Après cela, donc après ces événements que je viens de vous résumer maintenant, Absalom se procura un char, des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui menait à la porte de Jérusalem, hein, du coup. Et chaque fois qu'un homme avait un procès et se rendait vers le roi David pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu ?» Lorsqu'il avait répondu « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ?» Tout homme qui aurait un procès ou un droit à défendre viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand un homme s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour obtenir un jugement. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Et puis, il continue à faire ça pendant 4 ans. Vous imaginez, il est vraiment à la porte de David, il est à la porte de Jérusalem. Il continue à faire ça pendant 4 ans, et puis il s'en va à Hébron pour commencer vraiment la révolte et y offrir des sacrifices. Je reprends au verset 12, juste encore 2 versets. Verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo, Ahitophel, le Gilonite, qui était qui? Conseiller de David. La rébellion devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux avec Absalom. Arriva enfin celui qui fit rapport à David et dit, les hommes d'Israël se sont ralliés de cœur à Absalom. Alors, David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura pas moyen pour nous d'échapper à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il se hâtera bien lui-même de nous atteindre et d'attirer un malheur sur nous en frappant la ville du tranchant de l'épée. » Je m'arrête ici pour le moment. On reviendra à ce passage en 2 Samuel 15, parce qu'il y a d'autres choses très intéressantes. Mais on revient au psaume 3, et vous voyez que du coup, en ayant lu ce passage-là, on se rend bien compte que les mots de David, lorsqu'il dit « Éternel, que mes ennemis sont nombreux », ils ne sont pas exagérés. D'une part, celui qui lui devait la vie, son fils, s'en prend à sa vie. Et d'autre part, son conseiller le plus proche, on vient de le voir, Ahithophel, le trompe et se retourne contre lui avec une immense partie du peuple. On peut un tout petit peu s'imaginer ça, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a rien de pire, n'est-ce pas? Et ça nous est peut-être arrivé, ça vous est peut-être arrivé, de voir les personnes qui nous sont les plus proches, les personnes à qui on a fait une confiance entière, à qui on a donné tellement, tout d'un coup se retournent contre nous, et qui trompent notre confiance. C'est extrêmement dur. C'est ça qui arrive à David, mais pour David, bien sûr, ça va très loin, puisque c'est sa vie qui est en danger. Il est menacé physiquement. Il y a plus que ça. Parce qu'il est menacé, il est mis à mal physiquement, mais psychologiquement aussi. Et je crois que c'est encore plus dur, encore plus profond, il me semble. C'est sa personne, son appel, son identité qui est mise à mal. Regardez le verset 3. Vous voyez verset 3. Nombreux ceux qui disent à mon sujet, ceux qui parlent dans mon dos, et disent, il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. On sait, grâce au récit qui précède celui qu'on vient de lire en 2 Samuel 15, le récit qui précède, nous explique que, en fait, au travers de cette révolte d'Absalom, de son fils, David ne faisait, en fait, que subir les conséquences de son péché, de son adultère avec Bathsheba et du meurtre qui avait suivi, ce qu'on voit en 2 Samuel 12, par exemple. Et donc, on peut s'imaginer que ceux qui parlaient dans son dos, dont c'est une question ici, ils devaient dire un truc du genre, vous vous rappelez de Saül, le vieux qui était avant sur le trône, avant lui, vous rappelez de lui, il a péché, et Dieu l'a abandonné. Dieu s'est retiré de lui. C'est ça qui est en train d'arriver à David. Dieu est en train de l'abandonner. Regardez les choses terribles que David a faites. Il a couché avec la femme d'un autre, ensuite il a essayé de cacher son adultère par un meurtre. Comment est-ce que ce gars peut être notre roi? Il ne peut pas être notre roi. Il a perdu son droit d'être notre roi. Vous voyez, c'est vraiment sa personne, c'est son appel, son identité en tant que roi choisi par Dieu pour régner sur son peuple qui est mise à mal. C'est son identité qui est attaquée ici. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour nous de voir ça? Qu'est-ce que ça nous apprend à nous? Je crois que ce cri d'angoisse de David, il est très pertinent pour nous, chrétiens ou non, qui vivons au XXIe siècle, parce qu'on vit dans une société qui est angoissée. Si on regarde autour de nous un tout petit peu, on se rend bien compte que notre société est une société globalement angoissée. Lorsque je parle avec mes grands-parents qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, je me rends compte des fois qu'ils avaient des vraies inquiétudes qu'on n'a juste plus aujourd'hui. Ils ne savaient pas en se levant le matin s'ils auraient de quoi manger pour passer la journée. Ils avaient des vraies inquiétudes qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui. En comparaison, notre époque, c'est quand même beaucoup plus facile à vivre, n'est-ce pas? On n'a peut-être jamais autant qu'aujourd'hui, on ne s'est jamais autant préoccupé qu'aujourd'hui du bien-être, du bonheur des individus. Et pourtant, paradoxalement, notre société n'a jamais peut-être souffert de cette manière-là, de cet état d'angoisse un peu généralisé, irrationnel, diffus, qui est renforcé par les choses qu'on voit dans les nouvelles, nous qu'on a vu dernièrement, des choses qui se sont passées en Tunisie, etc., etc. L'écrivain américain Norman Mailer a écrit la chose suivante. Il a dit, le rôle naturel de l'homme au XXe siècle, et il disait vraiment ça par rapport à la fin du XXe siècle, début du XXIe, parce qu'il est mort en 2007, le rôle naturel de l'homme au XXe siècle, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Et je crois qu'il faut qu'on distingue un tout petit peu la peur et l'angoisse. C'est un peu artificiel parce que on peut pas vraiment les séparer. Il faut juste qu'on distingue un peu les deux choses. Parce qu'il y a une peur qui est face à un danger réel, qui peut être bonne parce qu'elle nous stimule à réagir au danger. Un peu comme la peur qu'un parent peut avoir quand il voit son enfant qui se penche trop par la fenêtre ou qui s'approche trop d'une route avec beaucoup de voitures qui passent, etc. Une peur qui va le stimuler à agir, à faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il oserait faire, qui va l'amener à se précipiter pour sauver son enfant. Il y a une peur comme ça qui est, on peut dire, spécifique, il y a un danger réel et constructive, parce qu'elle nous amène à réagir, à faire face au danger. Et en fait, c'est ce type de crainte-là que Dieu nous commande d'avoir face à lui, et qui est bonne, parce qu'elle nous amène, nous, à nous jeter dans ses bras, à nous réfugier en lui. Donc, il y a une peur qui est spécifique, comme j'ai dit, et constructive. Mais l'angoisse qu'on voit autour de nous et qu'on ressent parfois en nous, elle est très différente de ça. C'est plus un... C'est difficile de transmettre les choses qu'on ressent, mais c'est plus un sentiment permanent d'anxiété face à un danger probable tant qu'on sait, mais qui n'est pas vraiment réel, face à un effet possible, une sorte de sensation peut-être de vide un peu, mais qui est plutôt diffuse et qui est plus handicapante qu'autre chose, qui ne pousse pas à réagir, mais qui nous paralyse plutôt. Je voulais la distinction que je suis en train d'essayer de faire entre la peur et l'angoisse, c'est peut-être celle qu'on pourrait avoir entre la tristesse et le désespoir. Ou, je voulais que je prenne une image, je sais pas si elle est très bonne, mais entre un gros orage du sud de la France et une petite brume glaciale du sud de l'Angleterre. Il y a une peur comme ça qui, c'est comme une grosse tempête, comme on a eu les orages ces derniers temps, quelques heures terribles, une grosse tempête, mais une fois que c'est passé, tout revient au calme et à la paix. Alors que cette angoisse qu'on ressent parfois autour de nous, qu'on ressent parfois en nous, c'est plus comme cette brume un peu glaciale qui arrête jamais, hein, cette angoisse permanente, cette état d'anxiété, de déprime permanente. Et cette angoisse-là apparaît au fond de notre cœur quand lorsque notre identité est mise en danger, comme David. Lorsque la chose sur laquelle on a placé notre sécurité nous est retirée. Lorsque la chose qui nous donne peut-être le sentiment d'avoir notre existence sous contrôle nous est enlevée. Lorsque notre moi, notre ego est mis en danger, même de manière indirecte. Un sociologue et écrivain qui s'appelle Vincent de Gaulzac a écrit une chose qui est très intéressante, particulièrement intéressante parce qu'il n'est pas du tout chrétien. Et voilà ce qu'il dit. Il explique que c'est à cause, d'après lui, c'est à cause du développement de l'individualisme dans notre société qu'il y a cette angoisse qu'on voit autour de nous et parfois en nous, parce qu'il dit qu'il y a du coup l'obligation permanente d'être soi-même, de se réaliser sur tous les plans, professionnels, personnels, affectifs. Notre moi est devenu un fardeau pour chacun de nous. Notre moi est devenu un fardeau pour chacun de nous. Alors bon, je suis bien conscient que je m'adresse à des chrétiens ce matin, et donc je suis pas en train de dire que je pense qu'on est tous paralysés par une peur terrible au quotidien. Et c'est pas ça que je suis en train de dire, mais malheureusement, je pense qu'on a tous cette tendance à trouver notre identité, à chercher notre identité ailleurs qu'en Christ, à placer notre sécurité plus sur nos accomplissements, sur l'acceptation qu'on reçoit des autres, qu'en Dieu, de vouloir exercer un contrôle sur nos circonstances plutôt que de s'en remettre à Dieu. Je me permets de vous donner un exemple personnel, parce que peut-être ça vous aidera à comprendre un peu mieux ce que je veux dire. Je ne sais pas s'il est très bon, mais lorsque j'ai commencé à donner des prédications, ça fait quand même quelques années maintenant, donc avec un tout petit peu de recul, lorsque j'ai commencé à donner des prédications, j'ai réalisé que depuis le moment où je savais que j'allais devoir prêcher, les séances qui étaient parfois des semaines plus tard, c'était vraiment plongé dans une sorte d'angoisse un peu permanente, de déprime, d'anxiété, un peu diffuse, parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison, il n'y avait pas de danger réel en fait. Pourquoi ? Parce que je ne plaçais pas, je ne trouvais pas ma sécurité, mon identité en Christ, mais dans ma performance, dans le regard des autres, etc. Vous voyez un peu le, c'est un exemple qui me concerne moi, mais c'est sûr que vous pouvez penser à des exemples qui vous toucheraient peut-être vous plus directement. Je sais pas si c'est une angoisse peut-être par rapport à l'avenir, pas forcément par rapport à quelque chose de bien précis, mais justement, de pas savoir ce que l'avenir vous réserve. Parfois une peur de pas être à la hauteur que vous êtes passé, à la hauteur des attentes que certains ont placées pour vous, la peur de décevoir peut-être, l'angoisse de se retrouver seul, de perdre quelqu'un. Ouais, la liste pourrait être longue, mais moi je vais m'arrêter ici pour passer à la suite. On a vu ce cri d'angoisse de David, et David on reste pas là. Il adresse une prière d'espérance. C'est mon deuxième point, une prière d'espérance, c'est les versets 4 à 5. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. À haute voix, j'ai crié à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Vous voyez comme les choses changent ici? Plutôt que de regarder autour de soi, aux circonstances, et de terrasser par la révolte qui gronde et le danger qui est là pour lui, plutôt que de regarder au-dedans de soi, pour trouver quelque chose qui n'y est pas, les ressources pour faire face à ce qu'il attend, David regarde où? En dehors de soi. Mais toi, Éternel. Et c'est là que tout doit commencer pour nous, nous qui pouvons aussi être pris dans ces angoisses qui nous tenaient, et c'est là que tout commence. Mais toi, Éternel. Et regardez ce qu'il dit ensuite. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire. Vous voyez, je crois pas qu'il dirait ça s'il n'y avait pas autre chose qui, pendant un temps, avait pris cette place. Si quelque chose, pendant un temps, avait été sa gloire, ou si quelque chose, potentiellement, pourrait devenir sa gloire. Une idole, si vous voulez, dans son cœur, à la place de Dieu. Quelque chose ou quelqu'un d'autre même, hors de Dieu lui-même, qui aurait dirigé ou qui aurait gouverné ses émotions, que ce soit des sentiments de peur ou de joie d'ailleurs, c'est égal, mais quelque chose au cœur de ses préoccupations, qui aurait pu prendre en otage, si on veut, sa confiance, sa loyauté qu'il aurait dû avoir envers Dieu. Toutes ces choses vers lesquelles nous, on peut se tourner. Vers lesquels lui, il aurait pu se tourner pour trouver la stabilité, la sécurité, etc. Si vous réfléchissez, mettez-vous dans sa peau, quelles auraient pu être ces choses vers lesquelles David aurait pu se tourner pour y trouver sa sécurité émotionnelle? Il avait été un roi populaire. Ça, si vous vous rappelez, au début, quand il revenait de campagne militaire, les gens disaient, Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Il avait été un roi populaire, mais ça c'est terminé. Peut-être qu'il avait été un bon père pour ses enfants, on ne sait pas. Mais cette illusion-là, elle s'est envolée, hein, depuis un moment. Il avait eu un règne, on peut dire une carrière brillante, au début en tout cas. Mais maintenant, on l'a bien vu juste avant, les gens de Samuel 15, son royaume est au bord de la guerre civile. Il était, la Bible nous le décrit comme l'homme selon le cœur de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous le décrit, un homme bon, un homme pieux. On peut dire bilan moral irréprochable, mais ça aussi c'est terminé. Tout le monde le connaît comme quoi un adultère et un meurtrier. Il était puissant, et maintenant il est en fuite, chassé de son propre royaume. Mais toutes ces choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, au contraire, mais toutes ces choses ont dû lui être retirées une à une, pour qu'il réalise qu'en fait, il avait placé sa confiance dans ces choses-là plutôt qu'en Dieu. Que c'est en elle qu'il trouvait son identité. Un commentateur a pris cette illustration que je trouve assez utile. Il dit que nos angoisses, c'est un peu comme une fumée qui, si on la suit jusqu'à sa source, elle nous conduit dans un feu, et ce feu, qui petit à petit nous dévore, c'est cette chose qui a pris trop d'importance dans nos vies. Ces choses, voilà, dans lesquelles on peut se tourner pour y trouver notre sécurité émotionnelle plutôt que de la trouver en Dieu. Si vous voulez, nos angoisses, c'est plus la manifestation de quelque chose de plus profond. C'est juste la fumée d'un feu qui nous dévore. Alors, que fait David? Il transfère sa gloire. Mais toi, Éternel, tu es ma gloire. Plutôt que de trouver sa gloire dans ces choses éphémères qui lui ont la sécurité, donc il ne peut même plus y trouver sa sécurité émotionnelle, c'est trop tard, elles sont loin. Il trouve sa gloire en Dieu, mais toi éternel, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Tu relèves ma tête. La personne qui relève la tête de quelqu'un, c'est la personne qui rend toute sa dignité à une personne qui en avait plus. C'est la personne qui va venir vers une personne humiliée pour la relever, qu'elle puisse relever son front avec fierté. Comment est-ce que David peut dire ça par rapport à Dieu? Comment est-ce qu'il peut avoir une telle confiance? C'est presque un peu arrogant, il me semble, à première vue. C'est comme s'il disait à Dieu, voilà, ma vie est un échec, c'est un désastre, c'est un gâchis, mais je sais que tu es fier de moi. Je sais que tu es fier de moi, éternel. À quoi est-ce qu'il reconnaît que Dieu est fier de lui? À quoi est-ce qu'il reconnaît que Dieu veut le bénir malgré tout, malgré sa vie qui part dans tous les sens? Mais la réponse au verset 5, n'est-ce pas? Au verset 5, à haute voix, j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Il me répond de sa montagne sainte. Comment est-ce que David reconnaît que Dieu ne l'a pas abandonné? Il regarde à la montagne sainte. Pourquoi? Il y a quoi sur cette montagne? Pour le savoir, pour découvrir précisément de quoi il s'agit, il faut qu'on reprenne la clé, comme tout à l'heure, et qu'on revienne en 2 Samuel 15. D'accord? On va voir qu'est-ce qui se trouve sur cette montagne, vers quoi est-ce que David lève les yeux, et ça nous a décrit d'une très belle manière en 2 Samuel 15. Donc je vous invite à retourner avec moi pour ce passage-là. 2 Samuel 15, et je vais lire à partir du verset 23. De Samuel 15, verset 23. Vous vous souvenez, on a laissé David en train de se dire, oulala, Absalom arrive, il faut vraiment qu'on fiche le camp. Et il s'est dit, on va partir, ville de Jérusalem. Et on reprend donc la lecture au verset 23. Tout le pays pleurait à grand bruit au passage de tout le peuple. Le roi franchit la vallée du Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin du désert. Sadoc était aussi là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ils posèrent l'arche de Dieu et Abiathar montait, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, « Rapporte l'arche de Dieu dans la ville. Si j'obtiens la faveur de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. » Et je m'arrête ici pour l'instant. Mais face à la menace d'Absalom, qu'est-ce que fait David? Il quitte Jérusalem, vers l'est, il traverse la vallée du Cédron, qui est juste là, sur l'est de Jérusalem, et il est suivi des derniers qui sont fidèles, notamment du prêtre Sadoc, et des Lévites qui portent quoi? L'arche de l'Alliance. Mais qu'est-ce que David dit à Sadoc? Il dit, non, suivez-moi pas, arrêtez de me suivre, rapporte l'arche à Jérusalem, rapporte l'arche sur la montagne de Jérusalem. Sur la montagne sainte, là où se trouve le tabernacle. Et donc plus tard, lorsque David prie, c'est l'arche de l'Alliance qui se trouve sur la montagne que David se rappelle. Et c'est à ça qu'il reconnaît que Dieu ne l'a pas abandonné. Si vous vous rappelez l'histoire d'Abraham qu'on a eue tout à l'heure en Genèse 15, vous vous souvenez? C'est l'histoire où cette fois, c'est pas Abraham qui dit à Dieu, mais c'est Dieu qui dit à Abraham, « Je suis ton bouclier ». C'est la même expression qu'on retrouve ici, David dit à Dieu, tu es mon bouclier. Pour cette histoire qu'on avait lue en Genèse 15, Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier. Abraham répond, mais à quoi elle reconnaîtrais-je? À quoi elle saurais-je? Et vous vous souvenez que Dieu en réponse, il ordonne de couper les animaux, prendre chaque moitié, de les mettre l'une vis-à-vis de l'autre, c'est un peu gore, c'est un peu curieux pour nous. Mais c'est comme ça qu'on ratifiait un contrat. Qu'on passait une promesse d'alliance dans le Proche-Orient ancien, si on voulait faire un serment solennel, on s'identifiait aux animaux qu'on avait coupés en passant au travers, comme pour dire, si je ne suis pas fidèle à la promesse que j'ai faite, si je ne suis pas fidèle à mon serment, qu'il me soit fait comme à ces animaux, que je sois coupé, retranché du monde des vivants. Et quelle surprise alors! de voir, non pas Abraham, mais Dieu, dans une fournaise, dans un feu qui passe au travers des animaux, en s'identifiant à eux, comme pour dire, même si moi, je dois être coupé, être retranché du monde des vivants, à cause de sa désobéissance, je le ferai, je l'ai promis. Même si toi, tu n'es, Abraham, tu n'es pas fidèle au terme de l'alliance qu'on passe aujourd'hui, moi, dit Dieu, je serai fidèle au terme de l'alliance pour toi. Je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez, c'est ça que David se rappelle. Dans sa prière, en pensant à l'arche de l'alliance qui est restée à Jérusalem, c'est l'alliance que Dieu a passée avec Abraham, qu'il a réitérée avec Moïse et avec David, en 2 Samuel 7, et par laquelle Dieu s'est engagé envers lui. Et du coup, je ne pense pas que ce soit anodin, en 2 Samuel 15, dans la suite du passage, de voir David quitter la ville de Jérusalem, vers l'est, de traverser la vallée du Cédron, pour aller à cet endroit, ce lieu qui plus tard deviendra un jardin. Regardez 2 Samuel 15, le verset 30. Vous voyez le verset 30? David, laissé seul, abandonné de tous, prenait la montée des oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. C'est au verset 30, hein, de Samuel 15, verset 30. David qui monte le mont des oliviers, et puis verset 32, lorsque David fut arrivé au sommet, littéralement, il adora Dieu. Peut-être là, on peut s'imaginer qu'il a dit cette prière qu'on est en train de dire dans le psaume 3. Mais vous voyez, je crois pas que ce soit anodin de voir David là, sur le mont des Oliviers, en pleurs, en prière. Là où plusieurs centaines d'années après, son descendant direct, Jésus-Christ allait se retrouver lui aussi, en pleurs et en prière. À quelques heures seulement d'être lui coupé, retranché du monde des vivants. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu fidèle à sa promesse, Dieu fidèle à son alliance. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui a porté la malédiction de l'alliance, qui a été coupé, mis à mort, crucifié, hors de la ville, hors de la porte, comme on l'a lu tout à l'heure en hébreu, pour que les hommes, tels que Abraham, David et nous, qui avions pourtant été infidèles à son alliance, n'ayons pas à vivre cette angoisse, cet abandon que Jésus a connu dans le jardin de Gethsémané, sur le mont des Oliviers, et lorsqu'il a été séparé de son Père à la croix. Et c'est en Dieu seul, en Christ, que se trouve la délivrance à nos péchés, à nos idoles, et à nos angoisses les plus profondes aussi. À l'Éternel appartient le salut. Le salut appartient à l'Éternel. C'est comme ça que se poursuit la prière. Et c'est qu'après avoir compris ça, que David trouve son apaisement. Ce sera ma dernière partie. On l'a vu, un cri d'angoisse, une prière d'espérance, et finalement, une parole d'apaisement. Parole d'apaisement. Ce sera plus rapide, c'est les versets 6 à 9. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades, les milliers de gens qui de toutes parts se sont mis contre moi. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. À l'Éternel est le salut. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Ce qu'on voit ici, c'est que, au fond, la critique qui avait été faite tout au début, vous vous rappelez du psaume, à l'encontre de David, ces gens qui parlaient dans son dos et qui disaient, il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu, leur plus grand tort, c'était pas seulement de critiquer David, il y avait de quoi le critiquer. Mais leur plus grand tort, c'était quoi? C'est que par leurs paroles, ils déshonoraient Dieu. C'est construit tout un raisonnement, faux raisonnement, en déduisant de l'apparente absence de secours de la part de Dieu dans ces circonstances difficiles, que Dieu ne se souciait pas de son roi, que Dieu ne se souciait pas de son enfant. C'est une critique déshonorante à l'encontre de Dieu, comme s'il n'était pas fidèle à son alliance, comme s'il n'était pas fidèle pour bénir ceux à qui il avait promis de le faire. Oui, malheureusement, je crois qu'il nous arrive à nous aussi de déshonorer Dieu de cette manière-là, en doutant de sa bonté, de sa fidélité, de sa délivrance, dans les circonstances difficiles par lesquelles on peut passer. Lorsqu'on est face à des circonstances qui ont toutes les caractéristiques pour nous angoisser, terriblement, que ce soit une échéance qui nous attend, que ce soit la perte de quelqu'un, que ce soit une attente qui est passée sur nous, etc. Il y a deux attitudes possibles, en fait. Soit on cherche à s'en sortir par nous-mêmes et on va automatiquement être plongé dans cette angoisse dont on a parlé. Pourquoi ? Parce qu'on doit être à la hauteur, sous peine de perdre la chose sur laquelle on a placé notre sécurité et notre identité. Soit, à l'inverse, on peut se tourner vers Dieu avec foi, lever les yeux vers la montagne sainte, pas celle de l'arche cette fois, mais la montagne où notre Sauveur Christ est mort pour nous, où il a souffert hors de la porte, retranché, crucifié, pour y voir là l'amour, le secours de Dieu manifesté au plus haut degré. Et trouver en lui notre identité, notre sécurité, l'apaisement dont nous avons besoin. Et pour dire comme David, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. J'ai remarqué pour terminer qu'il y a plus qu'un apaisement dans ce dernier verset. David, on pourrait dire, se satisfait pas d'avoir une paix intérieure personnelle. Il veut plus que ça. Il cherche la justice. La justice pour son peuple. Au verset 8 à 9, c'est très marquant. Je trouve, lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes mes ennemis, tu brises leurs dents. Et verset 9, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alors, c'est une expression qui peut nous sembler très forte. Des fois, malgré nos impressions, il n'y a pas vraiment de haine ou d'esprit de vengeance dans les propos de David ici, parce que lorsque la rébellion d'Absalom est matée, qu'Absalom est mis à mort, la réaction de David nous est rapportée en 2 Samuel 19. Lorsqu'il apprend que son fils est mort, je vais juste vous lire ce verset en 2 Samuel 19, le verset 1. Alors le roi, bouleversé, monta dans sa chambre et pleura, et disait tout en marchant, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. Il ne faut pas que, du coup, dans ces derniers versets de cette prière de David, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un sentiment de haine ou de vengeance à l'encontre de ses ennemis, mais plus, il est plus préoccupé, je crois, par un désir de justice pour son peuple. Parce qu'il sait très bien que Absalom ne peut pas être un bon roi pour son peuple. Il se préoccupe de son peuple par amour. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de le voir en terminant. Parce que, surtout si on se rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ces angoisses qui peuvent être les nôtres et qui sont en fait une forme d'égocentrisme. Encore une fois, je ne parle pas de ces peurs face à un danger bien réel, qui sont normales, naturelles, et qui sont plutôt bonnes parce que nous amènent à réagir à ce danger, mais je parle de ces angoisses qui se développent dans nos cœurs quand notre identité est mise en danger, lorsque la chose sur laquelle on a mis notre sécurité à la place de la mettre sur Dieu nous est retirée. Cette peur-là, qui est maladive, elle est à l'opposé de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est la peur. C'est ce que l'apôtre Jean me dit en 1 Jean 4, verset 18, il dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et je crois que ça allait juste voir ça pour terminer, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais juste pour comprendre le cheminement de David de l'angoisse à l'apaisement. Il trouve son refuge en Dieu, mais ça lui permet du coup de s'ouvrir aux autres et de chercher leur bien et du coup d'être délivré de ses propres craintes égoïstes et destructives. Et je crois que ça doit juste nous amener à passer par une remise en question avec un certain. Quel est le sentiment qui domine dans notre cœur? Est-ce que c'est la peur? Ou est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est cette angoisse qu'on distingue dans notre société autour de nous? Cette angoisse parce que notre moi est devenu un fardeau, comme je disais tout à l'heure? Ou est-ce que c'est un désir de se mettre au service des autres, dans notre entourage, ici, à l'église ou autre, pour leur bien, pour leur bénédiction? Un cri d'angoisse, une prière d'espérance et une parole d'apaisement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces trois parties du psaume se terminent toutes trois avec le même mot. Vous avez vu? trois parties qui terminent avec le mot pause. C'est là en hébreu. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'était une indication pour la manière de chanter? Est-ce que c'était une précision pour l'accompagnement musical? On ne sait pas trop, mais un commentateur a fait la remarque que je trouve intéressante, et sans forcément dire que c'est juste, mais ça peut être intéressant de le voir comme ça. Il dit que la meilleure manière peut-être de comprendre ces mots, c'est là, ces pauses, c'est de les prendre simplement comme une recommandation au silence. Comme pour nous dire, arrête-toi ici et réfléchis un instant. On a vu le cri d'angoisse de David, et ça nous a amené à nous demander, est-ce qu'il y a autre chose sur laquelle j'ai trouvé mon identité, sur laquelle je base ma sécurité, autre que Dieu? C'est là, pause. Arrête-toi ici et réfléchis un instant. Puis on a vu, dans un deuxième temps, la prière d'espérance de David. Et je crois que ça nous amène à nous demander vraiment, est-ce que finalement ma gloire se trouve vraiment en Dieu? Lui qui a été fidèle à son alliance et qui a accepté d'être coupé, retranché, de souffrir hors de la porte pour nous. Est-ce que ma gloire est en lui, sur lui seul? C'est là. Paul. Arrête-toi ici et réfléchis un instant. Et puis on a vu dernièrement la parole d'apaisement de David. Ça nous a conduit, à nous demander, je pense que c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose, quel sentiment domine aujourd'hui et de manière générale dans nos cœurs? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que, si c'est la peur, est-ce que c'est un signe que je me préoccupe plus de moi et de mon identité personnelle à moi plus que des autres? C'est là. Pause. Arrête-toi ici et réfléchis un instant. Je vous invite à la prière. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ta parole qui est tellement complète et qui touche de tant de manières à notre vie, à notre existence, et qui nous parle aujourd'hui encore. Seigneur, nous te prions que, suite à ce que nous avons pu entendre, que tu nous fasses la grâce, Seigneur, dans les jours qui viennent, de découvrir en toi la vraie délivrance à nos angoisses les plus profondes, de trouver en toi notre gloire, et de vivre, du coup, non pas tourner sur nous-mêmes, mais orienter vers les autres. Nous te prions ces choses-là, que tu puisses œuvrer dans notre cœur et que tu le fasses en nous permettant d'avoir sans cesse les regards tournés vers ta montagne, comme David, vers Jésus-Christ, et de voir ce qu'il a accompli pour nous à la croix, de comprendre qu'il est passé par ses angoisses et cet abandon pour que nous n'ayons plus à les vivre, et que nous pouvons être sereins et dans la joie et la paix en toi. En son nom, nous te prions. Amen. Je vais terminer notre culte par le chant d'un dernier cantique.